Chapitre 5. Orphelin. Mercredi, 16 août 2000, 15h51, au large du port de Saint-Argan, île de Morneçay. Le voilier continuait de tanguer doucement, berçant mes souvenirs. Armand dormait toujours à côté de moi, recroquevillé, souriant dans son sommeil comme un gros bébé calé dans un landau qu'on pousse sur un chemin chaotique. J'observais le trait de côte, le mélange des couleurs de Morneçay, le tableau impressionniste des maisons perchées au-dessus des falaises de granit sombre, quelques taches rouges dans une lande aux 100 nuances de vert. L'île de Morneçay. Mon passé inachevé. J'y ai vécu mon enfance jusqu'à mes 6 ans. Mon père et ma mère étaient des sortes d'archéologues ou d'historiens, ou quelque chose entre les deux. Ils rénovaient l'abbaye Saint-Antoine en plein milieu de l'île. Ça a été leur travail pendant une dizaine d'années. Ils vivaient avec un groupe d'autres jeunes gratteurs de cailloux, dont Thierry, le frère de ma mère, et sa femme Brigitte. C'était dans le début des années 80. Je suis né au bout de 4 ans de fouilles, le seul enfant dans cette espèce de communauté scientifico-babacool. J'en ai gardé des images floues de soleil, de vent et de poussière, de grandes tables avec des adultes qui riaient et buvaient, et moi, le seul enfant, un peu perdu. C'est pratiquement tout ce qu'il me reste de ces 6 premières années. Tout s'est arrêté en 1990, brusquement. Un matin, j'étais à l'école, en récréation. J'ai vu arriver dans la cour le mari de ma nourrice. Qu'est-ce qu'il faisait là, au milieu de la matinée? Il m'a demandé de le suivre sans rien me préciser d'autre. Il m'a juste dit que c'était urgent, important, de ne pas poser de questions. Moi, je m'inquiétais surtout pour mon ballon. Au moment où il m'a pris par le bras, je venais de le lancer à un copain. Laurent, je crois. Je ne sais plus trop. Je ne l'ai jamais revu depuis ce jour. Il n'a même pas eu le temps de me le relancer. Si ça se trouve, il l'a toujours, ce ballon. Le mari de ma nourrice m'a conduit chez lui. Ils m'ont fait manger. Ils m'ont laissé jouer. Ils étaient tout gentils et ça sonnait terriblement faux. Je m'en rendais bien compte. Aujourd'hui encore, je ne me souviens plus de ce que j'ai avalé le midi, de ce que j'ai vu à la télé ou ce à quoi j'ai joué, mais je me souviens de cette ambiance étrange, de ce malaise, de tous ces gens autour de moi anormalement gentils et attentionnés. Et puis Martine, ma nourrice, est venue me voir vers la fin de l'après-midi. Elle pleurait. C'était la première fois que je la voyais pleurer. Elle m'a dit que mon père avait eu un accident, qu'il était parti au ciel, qu'il fallait que je sois courageux. Je ne me rappelle plus ses paroles exactes, mais je me rappelle surtout qu'elle a répété plusieurs fois « C'est un accident, c'est un accident ». Je n'ai pas pleuré, je crois. Je ne réalisais pas vraiment. Mon père, au ciel? Ça voulait dire quoi? Que je ne le reverrais jamais? Ça oui, je comprenais. Mais il n'y avait pas de tristesse en moi. Juste un malaise, un équilibre rompu. J'ignorais comment il fallait réagir. On ne m'avait pas appris. Je me demandais si après ce que l'on m'avait annoncé, je pourrais ou non recommencer à jouer au vélo ou allumer la télé. Quand j'allais pouvoir le faire? Aujourd'hui encore, je me demande si c'est monstrueux ou normal de réagir comme ça. La mort me semblait une affaire d'adulte. Mais une affaire d'adulte dont je n'avais pas les codes. Un tabou, comme quand les adultes parlaient de sexe. C'est ce que je ressentais. Quelque chose de sale, caché, réservé aux grands. Un sujet qu'il ne fallait pas aborder. Je n'ai pas pleuré. Je ne savais pas s'il fallait pleurer ou non. Je n'ai jamais pleuré depuis. Jamais. Dans ma petite tête de gamin, il n'y avait qu'une chose que je comprenais. Une seule chose à laquelle je me raccrochais. C'est un accident. Nounou avait tant insisté. C'est un accident. Pourtant, ça ne sonnait pas juste. Quelque chose n'allait pas. Nounou n'avait pas besoin d'insister comme ça. Je m'en fichais, moi, que ce soit un accident ou pas. Ça ne concernait pas un petit comme moi. Si elle insistait tant, c'est donc que ce n'était pas un accident. Du haut de mes 6 ans, au moment même où elle me répétait « c'est un accident », je savais qu'elle me mentait. Elle ne savait pas me mentir. Elle ne le faisait jamais. C'est sans doute cette certitude qu'à ce moment-là, Nounou me mentait qui a tout chamboulé. Il n'y avait pas de pleurs en moi, juste des questions, des tonnes de questions. Il se passait des choses terribles, terriblement tristes, mais on ne voulait pas me les dire. On me mettait à l'écart des mystères des grands. On me cachait un secret. Ça en devenait plus important que la mort de mon père elle-même. Au fond de ma petite tête, mon raisonnement était simple. Ce n'était pas un accident. Mon père n'était pas mort dans un accident. Alors s'il n'était pas mort dans un accident, peut-être bien qu'il n'était pas mort du tout. 2 jours plus tard, mon oncle Thierry et ma tante Brigitte sont venus me chercher. On a tout de suite quitté l'île de Morneset. Je me revois à l'arrière de leur Renault 5, regarder le paysage défiler. Du moins, je crois me souvenir. Tout cela s'est devenu très flou, juste des flashs. La croix de l'abbaye Saint-Antoine au loin, le point le plus haut de l'île. Cela, oui, je m'en souviens. Le ferry pour quitter l'île et le reste du trajet, la traversée de la Normandie, je n'en ai aucune image. Je m'étais endormi, il paraît. Avec Thierry et Brigitte, on a d'abord habité 2 ans dans un HLM à Pontoise, dont je n'ai presque pas de souvenir. Puis ils ont acheté un pavillon à Cormeilles, en Parisie, coincé entre Argenteuil et Maison Lafitte. Un pauvre pavillon minable dans un lotissement infâme. Avec des voisins cons, y compris, surtout, les gamins de mon âge. À en crever d'ennui. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec l'argent qu'ils avaient. Ils ont dû s'endetter jusqu'à la retraite pour leur petite maison. Je ne leur en veux pas. Pas pour cela, du moins. J'ai revu une fois ma mère, dans le HLM de Pontoise, le jour où j'ai quitté Morneset avec Thierry et Brigitte. Ou bien des jours juste après. C'est assez flou dans ma tête. Elle est arrivée le soir, lorsque j'étais dans le bain. Là encore, je ne me rappelle plus les paroles ou les images. J'ai seulement des flashs, des impressions. Et l'impression qui domine, c'est que ma mère me faisait peur. Elle était d'une effrayante gravité. Le noir, c'est uniquement à ça que je pensais. Le noir et le froid. Elle était triste, des traits tirés, presque comme un cadavre. Elle ne pleurait pas, mais on sentait qu'elle n'avait pas arrêté pendant toutes les heures d'avant, les jours d'avant. Elle se retenait devant moi, mais elle n'avait même plus la force de me sourire, de me dire une chose drôle, de m'éclabousser. C'est tout ce que j'attendais pourtant. Que tout redevienne comme avant. Sortir du noir, sortir des mensonges, retrouver les règles normales, pouvoir être un enfant normal, pouvoir jouer. Mais non. La femme qui se penchait au-dessus de mon bain, ma mère, c'est comme si elle était déjà morte, elle aussi. Je ne la reconnaissais pas. Elle me disait des choses graves, mais ce n'était pas ce que je voulais entendre. « Il va falloir être courageux. Tu es grand maintenant. Tu es déjà un homme. » Non, je n'étais ni grand ni courageux. Non. Elle restait manger ce soir-là. Les 3 adultes m'ont couché dans la chambre. Je ne me suis pas endormi. Je les entendais parler à travers le mur, mais je ne comprenais pas. Du moins, je ne me souviens de rien. Sauf du prénom de mon père qu'il prononçait régulièrement. Jean. Il parlait de lui au présent. À chaque fois qu'il prononçait ce prénom, Jean, je frissonnais dans mon lit, comme s'il parlait d'un fantôme. Comme s'il parlait de quelqu'un de vivant. Tard dans la nuit, ma mère est venue dans ma chambre. Je devais m'être endormi. Elle m'a réveillé. Elle essayait de me sourire, mais son visage était tellement... Pendant toutes ces années, je n'ai pas trouvé d'autre mot. Cadavérique. Longtemps j'ai fait des cauchemars. À chaque fois, c'est ce visage que je revoyais. Ma mère qui se penchait pour m'embrasser. Sa main tremblante, son alliance d'argent. Puis la dernière image que j'ai d'elle. Un visage creusé qui m'effraie, presque un fantôme elle aussi. Et les dernières paroles qu'elle prononça. Si étrange. Ton papa est parti loin, Colin. Très loin. Mais ne sois pas triste. Il faut être patient. Tu le reverras. Tu le retrouveras un jour. Tu le reverras un jour. Depuis tout ce temps, cette question me hante. Ma mère avait-elle murmuré cela pour atténuer ma peine? Ma mère ne me parlait-elle que du paradis, du ciel, de ces légendes que l'on sert aux enfants pour les rassurer? Toutes ces sornettes auxquelles je n'ai jamais cru. Le lendemain, Brigitte est venue me voir. J'avais dû dormir longtemps. C'était dans l'après-midi, je crois. Je n'avais pas encore trop la notion du temps. Elle m'a expliqué que ma mère aussi était montée au ciel, retrouver mon père. Elle m'a dit très rapidement qu'elle avait eu un accident de voiture, qu'elle n'avait pas souffert, qu'elle avait voulu rejoindre mon père, qu'elle l'avait rejoint. Immédiatement, j'ai cru Brigitte. J'ai cru chacune de ses paroles. Et je l'ai toujours cru depuis. Pas le ciel, bien entendu, mais l'accident. Sans doute que cela sonnait juste. Sans doute aussi que j'avais déjà vu ma mère presque morte. Brigitte m'a dit ensuite que j'allais maintenant vivre avec elle et mon oncle Thierry. Elle n'a pas dit grand-chose d'autre, d'après ce que je me rappelle. Elle ne m'a pas demandé d'être courageux ou des trucs dans le genre. Elle ne m'a pas demandé si j'étais triste, si mes parents me manquaient. Elle ne devait pas être très à l'aise, elle non plus. Pour ma part, je crois que je préférais que ça se passe comme ça, sans en parler. Brigitte ne m'a rien demandé, Thierry non plus. Il attendait dans la salle à côté. Pendant 10 ans, nous n'en avons jamais reparlé. C'est aussi simple que ça. Les jours ont défilé les uns après les autres, sans jamais évoquer à nouveau ma mère et mon père, Anne et Jean. Un accord tacite entre nous. Un tabou, comme on dit. Je l'ai compris aujourd'hui. Ne pas me parler de mes parents, c'est la meilleure chose que Brigitte et Thierry aient faite pour moi. Ne pas me harceler avec des câlins, des discours psy ou des souvenirs nostalgiques. Ne pas en parler. Oublier. Me foutre la paix. Je n'ai pas une grande affection, pas une grande admiration pour mon oncle et ma tante. Ils ne sont pas mon genre, disons. Je commence à exploser dans leur univers mesquin de petits bourgeois, leur racisme ordinaire, leurs amis lourdingues, leurs petites relations médiocres. Mais au moins, ils ne m'ont jamais fait chier avec mes sentiments pour mes parents, avec des retours larmoyants sur le drame. Ils ne m'ont jamais fait le coup de la bête curieuse qu'on montre aux invités à la fin du repas. Le pauvre petit, il a perdu ses parents, il n'avait pas 6 ans. On l'a recueilli, ça doit être dur, hein, mon petit. Malgré tout, tonton et tata, merci au moins de m'avoir évité ça.